Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 15. Aujourd'hui, nous allons étudier la septième parole et Jésus-Christ nous dit dans Saint Luc chapitre 23, verset 46, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Chers amis, il y aura un certain nombre d'indications bibliques, il est vrai, mais cela a une double importance. Premièrement, plus tard, quand vous aurez un peu de temps devant vous, vous pourriez ainsi relire et bénéficier encore mieux en lisant tous les textes dans votre Bible. Et deuxièmement, ou la deuxième importance, c'est que vous pouvez ainsi comprendre que ces études, ces messages, ne sont pas faits à la va-vite et sont l'œuvre de prières intenses et de l'aide demandée à l'Esprit-Saint. Chers amis, la septième parole de notre bien-aimé Christ sur la croix se trouve rapportée dans l'Évangile selon Luc, c'est-à-dire dans l'Évangile consacré à la sainte et glorieuse humanité du Seigneur. L'Évangile selon Jean, qui a pour objet essentiel la divinité du Sauveur, montre comment le Seigneur a remis son esprit en tant que Dieu. L'Évangile selon Luc fait voir comment le Sauveur a quitté cette vie en tant qu'homme, car Luc était médecin. Et Jésus, criant d'une forte voix, nous dit, et il dit surtout sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir prononcé cette parole, il expira. Nous est-il dit au chapitre 23 de Luc et le verset 46. Et Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Nous est-il également confirmé dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, verset 37. Et ça continue dans Matthieu, chapitre 27, verset 50, toujours la confirmation. Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Le texte de Marc dit encore, et le centurion qui se tenait en face de lui, voyant qu'il avait expiré après avoir crié de cette manière, il dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Chapitre 15, verset 39. Bien que certains manuscrits, et non des moindres, ne contiennent pas le mot traduit par « après avoir crié », il importe de rapprocher l'Évangile de Marc, chapitre 15, verset 37, et Marc, chapitre 15, verset 39, et là, nous voyons la déclaration du centurion qui fournit en tout état de cause une réponse à la septième parole du Seigneur. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » La déclaration du centurion et de ses subordonnés rapporte dans Saint Matthieu et elle offre un caractère plus générale. Il est dit que le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, à la vue du tremblement de terre qui a eu lieu et des événements, furent remplis d'une grande crainte et ils dirent « Vraiment cet homme, littéralement celui-ci, était le Fils de Dieu. » Chapitre 27, verset 54. Luc raconte pour sa part, immédiatement après le récit de la septième parole et du dernier soupir du Sauveur, une autre déclaration du centurion, déclaration qui est en parfaite harmonie avec le sujet propre de son évangile. Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Réellement, cet homme était juste. » Mes chers amis, croyez-moi, ça vaut la peine, si un jour vous en avez le temps, de lire tranquillement ces versets dans votre Bible. Le grand cri du Seigneur, selon Marc chapitre 15, verset 37 et Matthieu chapitre 27, verset 50, est sans aucun doute sa septième parole prononcée, comme Luc chapitre 23, verset 46, le raconte d'une voix retentissante. Il a dit ces paroles vraiment avec une voix forte. Non seulement les expressions employées par Matthieu, chapitre 27, verset 50, et par Marc, chapitre 15, verset 37, s'accordent très bien avec le récit de Luc, chapitre 23, verset 46. Au verset 46 de Matthieu 27, nous entendons, pour ainsi dire, le Seigneur prononcer d'une voix retentissante sa quatrième parole, son cri de détresse profonde à la fin des trois heures de ténèbres, quand il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette similitude de termes, renforcée par l'indication si précise de Matthieu et par la déclaration du centurion, selon Marc chapitre 15, verset 39, fait briller la lumière de l'évidence et permet d'atteindre l'assurance d'une pleine certitude. Le dernier cri que le Seigneur a poussé d'une voix retentissante, lisez Luc chapitre 23, verset 46, Matthieu chapitre 27, verset 50, ainsi que Marc chapitre 15, verset 37, atteste de toute la force et toute l'énergie vitale que le Seigneur avait conservée à travers ses mots et ses tourments vraiment cruels, et nous montre à quel point la mort du Sauveur, somme toute, a été vraiment libre et volontaire. La grandeur de sa personne et de son sacrifice apparaît ainsi dans un jour saisissant entre les trois évangiles qui nous montrent clairement sous plusieurs aspects la multiple intensité des souffrances du Sauveur et celui qui nous permet de contempler le charme et l'éclat de sa majesté divine. Il existe une harmonie supérieure. Le Seigneur, aussitôt l'expiation achevée, était rentré dans la bienheureuse communion de son Père. Rien ne lui voilait plus la face de Dieu. Son douloureux abandon avait pris fin avec les 3 heures de ténèbres. Au milieu des clartés revenues, le Seigneur peut de nouveau dire « Père ». À part le mot « Père », la 7e et dernière parole du Sauveur crucifié est à un détail près, la citation textuelle du psaume chapitre 31, verset 5, d'après la version 70. D'après Luc, le Seigneur a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il semble que la 70, qui sert souvent de trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament, lisez ou notez Actes chapitre 2 verset 18, ainsi que Hébreux chapitre 10 verset 5, annonce d'une manière prophétique, il faut bien le dire, le dernier cri du Sauveur sur la croix. Le léger détail dont il s'agit, je remettrai en regard de « je remets » deux termes un peu différents, « je remettrai » ou « je remets » offre un réel intérêt. L'absence du mot « père » dans le psaume 31 est tout ce qu'il y a de plus naturel. Car voyez-vous, avant la venue du Seigneur ici-bas, Dieu n'était pas révélé comme père et il n'était pas question pour les croyants de se trouver introduit dans la relation et dans la qualité d'enfant. Notez 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, et Saint Jean, chapitre 1, verset 14 à 18. Ce n'est pas en ce sens précis et pour ainsi dire juridique que Dieu est appelé Père dans l'Ancien Testament. Malachie chapitre 2 verset 10, comme d'ailleurs en un passage du Nouveau Testament tel que Éphésiens chapitre 4 verset 6. Dans ces deux derniers versets, il s'agit en un sens large et général de la paternité de Dieu en tant que créateur de tous les hommes. La 7e parole du Sauveur sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc chapitre 23, verset 46. Marque donc à l'heure suprême le couronnement de la vie de prière du Sauveur. La prière est l'expression par excellence de la dépendance vis-à-vis du Père Céleste, de la soumission à sa volonté et, en un mot, de cette obéissance qui constitue aux yeux de Dieu la perfection même de l'homme. À ce titre, jusqu'à la fin, la prière a joué un rôle considérable dans la vie du Sauveur, un homme saint, parfait et glorieux. L'esprit de dépendance et de prière apparaît ainsi comme l'un des traits principaux de la nature morale du Christ et en conséquence comme l'un des caractéristiques distinctif de la vie chrétienne, c'est-à-dire de la vie du Christ dans ses rachetés. La prière implique d'autre part une touchante communion de pensée, de sentiments et d'intentions. elle ne peut se réaliser que dans la communion avec Dieu. Et la prière ne se fait à bon escient qu'éclairée. Il faut qu'elle soit éclairée par les saintes Écritures. N'oubliez jamais cela. Obéir était proprement une nouveauté pour le Sauveur venu en grâce ici-bas. Le Seigneur est le Créateur qui commande à tous les êtres selon son bon plaisir. Avant sa merveilleuse incarnation, au milieu des gloires et des félicités de sa vie céleste, le Sauveur n'avait aucune occasion de pratiquer l'obéissance. La vertu d'obéissance n'existait pas pour lui dans le ciel. Sur cette terre flétrie par les ravages du péché, eh bien le Seigneur, quoiqu'il fût fils de Dieu, a dû apprendre l'obéissance par les maux qu'il a subis. Lisez Hébreux chapitre 5, verset 8. « Et il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. » C'est également écrit ou confirmé dans Philippiens, chapitre 2, verset 8. La prière tient une place capitale dans la vie terrestre du Seigneur. L'évangile selon Luc, qui nous rapporte la première et la dernière parole du Sauveur crucifié, et celui des quatre évangiles, qui nous montre le mieux la beauté morale de l'esprit d'oraison et le rôle constant de la prière dans la vie de l'homme saint, parfait et glorieux. Quelques remarques mettront ce fait en évidence. Il y a dans les quatre évangiles, et d'une manière plus spéciale dans les trois évangiles synoptiques, lorsqu'ils nous racontent les mêmes événements et les mêmes scènes, des expressions spécifiques qui ont trait au sujet particulier de chacun d'entre eux et qui, pour cette raison, lui appartiennent en propre. La prière, à ce titre, c'est un élément spécifique de l'Évangile selon saint Luc. Trois textes nous font connaître le baptême du Sauveur au Jourdain et l'admirable scène qui donne lieu au début du ministère public du Seigneur à la première révélation de la Sainte Trinité. Ce sont Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Notez Marc chapitre 1, versets 9 à 11. Et Luc, chapitre 3, versets 21 et 22. Seul, parmi ces trois textes, l'Évangile selon Luc nous montre le Sauveur en train de prier. Les trois synoptiques racontent l'appel des 12 apôtres, Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 4. Ainsi que Marc, chapitre 3, versets 13 à 19, sans oublier Luc, chapitre 6, versets 12 à 16. Luc est donc le seul à mentionner la place immense de la prière dans la vie du Seigneur à l'occasion de cet événement considérable. Nous lisons dans saint Luc et dans Luc seul, qu'il est écrit « Or il arriva en ces derniers jours-là qu'il s'en alla sur la montagne pour prier. » et il était pendant toute la nuit en train de prier Dieu. Et lorsque le jour fut venu, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtres, selon Luc chapitre 6, versets 12 et 13. Il résulte de ce témoignage qu'avant de choisir les 12, et parmi eux le fameux Judas Iscariote, le futur traître, dont l'infâme conduite devait être pour lui si cruelle. Vous pouvez retrouver tout cela dans le psaume 41, verset 9. Ainsi encore toujours le psaume, chapitre 55, versets 12 à 14, est confirmé par saint Jean, chapitre 13, verset 18, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait passé la nuit entière à prier Dieu sur la montagne. Cette constatation recule, pour ainsi dire, l'horizon devant nos yeux émerveillés et rend manifeste à notre vue, à une distance précédemment insoupçonnée, le sublime degré de perfection morale jusqu'où le Fils de l'homme poussait l'esprit de prière, de dépendance et de soumission à la volonté du Père. Les trois synoptiques nous montrent de même les gloires fulgurantes de la transfiguration et la majesté resplendissante de notre Seigneur Jésus-Christ sur la sainte montagne. Notez Matthieu chapitre 17, versets 1 à 8, Marc chapitre 9, versets 2 à 8, Luc chapitre 9, versets 28 à 36, et ne pas oublier la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 16 à 19. Or, Luc est vraiment le seul à spécifier le rôle de la prière dans cette scène très, très importante de la vie du Christ à la fin de son ministère en Galilée. Luc nous dit: il arriva environ 8 jours après ces discours que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il, Jésus-Christ, monta sur la montagne pour prier, et pendant qu'il était en train de prier, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint blanc, éclatant comme un éclair. C'est confirmé par Luc chapitre 9, versets 28 et 29. Tel est le rôle de la prière dans cet avant-goût magnifique de la glorification du Fils de l'homme. Dans ces trois cas importants, l'Évangile selon saint Luc est seul à montrer et nous montre avec un relief saisissant le Seigneur en prière dans la beauté lumineuse de ses perfections morales. 4 textes du Nouveau Testament nous parlent des souffrances du Seigneur au jardin de Gethsémani. Vous pouvez noter Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46, Marc chapitre 14, versets 32 à 42, Luc chapitre 22, versets 39 à 46, et ne pas oublier Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Les trois évangiles mentionnent à fois répétée, on doit bien le dire, la prière fervente du Sauveur, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit lui-même la douloureuse intensité des supplications du Christ. Nous admirons dans les trois synoptiques la façon dont le Fils de Dieu épanche son cœur dans le cœur du Père céleste, et dont le souverain restaurateur du genre humain, l'homme saint, l'homme parfait et glorieux, qui ne pouvait souhaiter l'affreux abandon de son Dieu fort pendant les 3 heures de ténèbres, soumet sa parfaite volonté humaine à une autre volonté parfaite, c'est-à-dire la volonté divine. Mais si Matthieu et Marc nous donnent certains détails que, pour sa part, Luc ne nous donne pas, en revanche, Luc est le seul à nous dépeindre l'extrême angoisse du Sauveur qui, en prière, a les effets solennels de cette lutte spirituelle, car sa sueur, qui devient comme des caillots de sang, un signe avant-coureur du sang expiatoire et rédempteur qui va être versé sur la croix, et les caillots de sang qui tombent sur la terre, notez Luc chapitre 22, verset 44, sur cette terre, en la partie habitable de laquelle le Fils éternel, trouvant ses délices dans les fils des hommes, s'était réjoui avant les origines du monde, sur cette terre où rien, pas même le péché odieux et les suites amères du péché n'avaient pu rebuter son inaltérable amour. C'est confirmé par Proverbe, chapitre 8, versets 30 et 31. Aucun texte ne met en lumière la gloire morale, les perfections et les grâces de la nature humaine du Sauveur comme l'Évangile selon saint Luc. La première et la dernière parole du Seigneur sur la croix, qui sont aussi des prières complètes, qui complètent et couronnent ce merveilleux ensemble. Le grand esprit de prière, d'obéissance et de soumission qui n'a cessé d'animer le Fils de l'homme pendant son ministère ici-bas, trouve son expression finale dans cette formule de dépendance suprême qui exprime et qui condense le secret de toute la vie terrestre du Sauveur et qui nous montre la sainte humanité du Seigneur parfaitement maîtresse de la mort elle-même. Rappelez-vous, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Luc 23, verset 46, que nous connaissons maintenant par cœur. Gloire donc au Fils de l'homme, remettant son esprit entre les mains du Père sur la croix. Oui, gloire à jamais. La première des deux paroles d'Étienne, qui a été lapidée, rappelle d'une façon frappante la dernière des 7 paroles du Seigneur sur la croix. Le Sauveur mourant a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, verset 46 que nous connaissons par cœur. La description du supplice d'Étienne contient les mots suivants. Et il lapidait Étienne qui priait et qui disait « Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit ». Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59, selon les versions allemandes et anglaises. Le texte du livre des Actes indique qu'Étienne a prononcé cette phrase mémorable en priant. L'invocation d'Étienne fait invinciblement penser au modèle donné par le Seigneur en personne. Heureux celui qui a reflété dans sa propre mort la gloire morale du Christ et qui nous laisse lui-même, à ce titre, l'exemple fidèle d'un témoignage dont l'éclat brille à travers les âges et jusque dans l'éternité. Comparée à celle du Seigneur crucifié, les paroles du premier martyr, qui sont au nombre de deux, offrent d'intéressantes différences de détails. Elles présentent, d'autre part, l'ordre inverse. Ce fait, dont l'importance est manifeste, tient à des causes profondes dont le présent travail fournira l'explication au CD suivant. Le Nouveau Testament ne nous dépeint ni le supplice de Pierre, ni le supplice de Paul. Ces apôtres éminents, ces personnages considérables du christianisme primitif, eh bien, notre attention, de cette manière, ne se trouve pas détournée de la passion du Seigneur lui-même. Mais le Nouveau Testament ne manque pas de nous décrire la mort d'Étienne, ce témoin plus humble, mais non moins fidèle du Sauveur, afin de marquer avec une netteté parfaite la façon dont nous sommes appelés à glorifier Dieu en produisant dans la mesure proposée à chacun les caractères et l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cas d'Étienne est fort instructif. Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint, plein de grâce et de puissance. La sagesse avec laquelle il parlait sous l'action du Saint-Esprit se montrait irrésistible. Il est dit que son visage semblait pareil à celui d'un ange, selon Actes chapitre 6, verset 5, verset 8 et verset 10, et ainsi que le verset 15 des Actes des Apôtres. Du reste, le verset 15, vous pouvez le comparer avec Exode chapitre 34, verset 29. Avant de nous rapporter la lapidation et les suprêmes prières d'Étienne, le livre des Actes indique ce qu'il était, ce qu'il faisait, ce qu'il voyait et ce qu'il disait. Actes chapitre 7, versets 55 et 56. Étienne était plein de l'Esprit Saint. Il avait fixé les yeux sur le ciel. Il voyait la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Il parlait des cieux, le ciel ouvert. et du Fils de l'homme glorifié à la droite de Dieu. La contemplation du Seigneur de gloire ne manque pas de produire des résultats grandioses. Le témoignage d'Étienne projette des feux magnifiques et s'impose dans tous les temps à la mémoire de tous les rachetés du Sauveur. De l'exemple du premier des martyrs, l'apôtre Paul lui-même a largement profité et fait profiter ses frères, l'apôtre qui, avant sa conversion, avait même assisté et malheureusement consenti au supplice d'Étienne, selon Actes chapitre 8, verset 1, écrit plus tard dans sa seconde épître aux Corinthiens, « Or nous tous contemplons à face découverte, ainsi que dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit Saint. » Chapitre 3, verset 18. Si le Nouveau Testament ne nous donne ni le récit du martyr de Pierre, ni le récit du martyr de Paul, ce précieux recueil nous laisse néanmoins voir avec une clarté remarquable les sentiments de dépendance, de prière et d'une grande foi qui ont animé ces deux grands apôtres jusqu'à la fin de leur vie terrestre. Ce sujet, qui est d'un grand intérêt, se rattache en quelque sorte, comme la première parole d'Étienne lapidée, à la septième parole du Seigneur sur la croix. L'apôtre Pierre, qui s'appelle lui-même témoin des souffrances du Christ, et qui marque si bien qu'il y a pour chacun l'occasion de souffrir comme chrétien, il nous dit en termes formels dans sa première épître écrite et peu de temps avant sa mort, ainsi que ceux-mêmes qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Voyez-vous, ceux qui prêchent que quand on est sauvé, eh bien, il n'y a plus de problème. Dieu doit automatiquement nous donner tous les délices de ce monde. Ça, c'est pas du tout selon la parole de Dieu. Pas du tout. C'est même grave. Car dans le monde entier, nous savons qu'il y a des servantes et des serviteurs de Dieu qui souffrent, qui sont battus, violés, et pire que cela. Donc, la seconde épître de l'apôtre Pierre fait voir combien, au moment de déposer sa tente, c'est-à-dire de quitter cette vie ici-bas, Pierre songeait non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous les croyants, à la beauté d'une riche entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Or, Étienne fournit l'exemple accompli d'une somptueuse arrivée auprès du Seigneur de gloire. De son côté, l'apôtre Paul, durant les dernières années de son existence ici-bas, montre un grand souci de glorifier dans sa mort le Seigneur en reflétant les caractères du Sauveur mourant. L'une des dernières épîtres de l'apôtre, la dernière adressée à une collectivité, l'épître aux Philippiens, marque cette préoccupation en termes d'une vigueur frappante. Confiant dans la prière des enfants de Dieu, ses frères et sœurs, et dans l'abondance des ressources fournies par l'Esprit de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit avec une pleine assurance « Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. » Philippiens chapitre 1, verset 20. « Renonçant à tout en vue de gagner Christ. » Chapitre 3, verset 8. L'apôtre ajoute « Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, s'il y a pour moi quelque manière d'aboutir à la résurrection d'entre les morts, eh bien, je veux suivre Christ avec même ses souffrances. » Ce noble souci, l'apôtre l'avait non seulement pour lui-même, mais encore pour tous ses frères et sœurs, comme l'indique expressément le verset 17 du chapitre 3. C'est à ses frères et sœurs que l'apôtre Paul dit au chapitre 2 de Philippiens, « Ayez en vous la pensée qui a été dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme un objet de rapine le fait d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, et qui étant trouvé en figure comme un homme, s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Et cette préoccupation générale n'a pas manqué de produire un effet qui se rapporte lui aussi, comme la première parole d'Étienne lapidée, à la septième parole du Seigneur crucifié. La seconde épître à Timothée, la dernière en date de toutes les épîtres de l'apôtre, la lettre écrite au moment où l'apôtre Paul pressentait son prochain départ. Notez 2 Timothée chapitre 4, verset 6. La lettre qui nous reste comme son testament spirituel contient cette déclaration capitale par laquelle l'apôtre confie en quelque sorte au Sauveur sa personne et son destin jusqu'à l'heure suprême. Le Seigneur me délivrera de toutes mauvaises œuvres et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Et on peut dire vraiment amen. Chers amis, avant de prier ensemble, le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous dire quelques paroles que j'ai reçues par l'Esprit Saint pour vous. Et j'espère de pouvoir les rendre telles que je les ai reçues maintenant. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Il n'est pas sans importance de prononcer ou seulement d'écouter des paroles haïssables, malsaines ou légères. Jésus a dit « Si quelqu'un fait tomber dans le péché, l'un de ses plus petits qui croit en moi, et combien cela arrive facilement par de tels propos, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Prends donc garde que toutes tes paroles et tes emportements contribuent à la bénédiction des autres. Proclame la parole de Dieu en tout temps. Interviens avec courage et patience, que cela convienne aux gens ou non. La puissance de ton service chrétien sortira grandie et d'ignominie et d'humiliation qu'il t'occasionne à cause de Christ. Aussi, soucie-toi exclusivement du mandat et du commandement dont Dieu t'a chargé, mais jamais de l'opinion des gens. Ne porte aucune attention aux rébuffades et à la diffamation dont tu es l'objet, mais témoigne de la parole et de la volonté de Dieu, et ton travail portera des fruits abondants. Le Seigneur vous dit, ne craignez rien, car je suis votre Dieu et votre libérateur. Oui, il vous délivrera de tout mal. Faites-lui confiance, n'ayez pas peur. En toutes circonstances, rendez grâce. Comprenez l'importance de cette recommandation. Il faut que vous puissiez dire merci dans les jours les plus gris. Il le faut. C'est alors seulement que tout peut s'éclairer. Il y a la leçon des journées grises. Elle est absolument nécessaire. Sa mort sur la croix fut nécessaire au salut de l'humanité qu'il lui fallait assurer. Elle fut nécessaire aussi à l'entraînement de ses disciples. Oui, cette mort et tout ce qui l'accompagna devait servir à les former. Son entrée triomphale à Jérusalem, l'exemple qu'il leur donnait en leur lavant les pieds, son agonie à Gethsémani, les moqueries, le jugement, la crucifixion qu'il subit, sa mise au tombeau, chacune de ces étapes avait un sens pour eux. Ainsi pour vous, si l'une quelconque de vos journées grises n'est pas changée en un jour d'action de grâce, il faut que la leçon soit répétée. Il n'en est pas ainsi pour tous, mais pour ceux-là seulement qui demandent à le servir jusqu'au bout et sans réserve. Et ceci pour accomplir une grande tâche, il faut s'être préparé à fond et longuement. Prions maintenant ensemble. Autour de toute grâce et de tout don parfait, Dieu puissant et bon, ta protection s'est étendue sur nous pendant la nuit dernière. Et ce matin, tu nous as fait renaître à la vie. Mais nos âmes sont encore plongées dans l'engourdissement et le sommeil spirituel. Fais donc lever pour elles le jour pur de la foi, qui leur donne un sentiment de vie et les remplisse de force et de ferveur. Alors nous cesserons de n'avoir que le bruit de vivre, et nous pourrons te servir comme tu veux être servi, en travaillant à l'avancement de ton règne sur la terre. Seigneur, dis un seul mot, et nous serons éclairés, guéris, fortifiés, et nos cœurs brûleront de reconnaissance et d'amour. Nous aurons de la charité pour nos frères et sœurs, nous aimerons leurs âmes, et nous volerons au secours de ceux qui souffrent et de ceux qui sont encore éloignés de toi. Dis un mot, Seigneur, et nous remplirons nos devoirs avec exactitude et bonheur, faisant toutes choses pour l'amour de toi, agissant toujours comme en ta sainte présence. Révèle-nous ta miséricorde et déploie à nos yeux les mystères insondables de la charité envers les pécheurs pour lesquels ton Fils bien-aimé a donné sa vie. Permets-nous d'implorer les mêmes faveurs pour nos parents et nos amis, et reçois, ô notre Père céleste, nos supplications et nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et je souhaite que nous nous revoyons par l'écoute. À bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.